Et donc, bienvenue ce soir dans le cast rétro. On va parler de Disney, on va parler de Sega, on va parler de Sega plus Disney et pourquoi c'était un combo gagnant. Je suis avec Michael Knight TV, alias Stéphane. Comment tu vas ?
Eh ben, je vais très bien, merci. Et toi ?
Bah écoute, ça va nickel. Merci, merci, merci. On va commencer avec des choses classiques. Est-ce que toi, ton premier contact, c'était quoi alors avec les consoles Sega?
Alors, moi, j'ai connu assez jeune, hein, je devais avoir 8 ans, 9 ans à peu près.
Ok.
J'ai connu, en fait, juste après le divorce de mes parents, quand ma mère donc, s'est remise en couple avec ce qui est encore aujourd'hui mon beau-père, qui lui possédait une Master System et avait aussi la Game Gear.
D'accord.
Et donc, j'ai commencé le jeu vidéo, en fait, tout simplement sur ces consoles-là, via mon beau-père. Et rapidement après, moi, j'ai eu, quand elle est sortie, la Mega Drive. Ça a été ma première console, et c'est pour ça que ça fait partie de mes consoles de cœur. Mais le premier contact, ça a été vraiment Master System et Game Gear. Et okay. La Game Gear, c'était très sympa parce que du coup, je pouvais jouer quand j'allais chez ma mère. Bon, branché sur le secteur, ok, mais
ouais,
en
ouais,
nomade,
bien
dans
sûr.
Canapé. On y reviendra peut-être sur la consommation des piles.
Ouais.
Mais voilà, ça me permettait de jouer pendant que ma mère et mon père regardaient la télé ou tout ça. Ils me prêtaient sa console et je pouvais jouer. Et comme il aimait bien, c'était ses consoles, donc il aimait bien le jeu vidéo, lui m'intégrait des fois à ses jeux. Il avait le gun hein, sur la Master System, l'équivalent
okay.
du zapper de la NES. Alors, je ne sais plus quel jeu il y avait sur Master System. On se rappelle tous de Duck Hunt sur Nintendo.
Ouais.
C'était un équivalent hein, sur Master System, mais je ne sais plus dire, tu vois, avec les années, quel jeu c'était, le jeu de tir vraiment de base, quoi, avec la Master System. Mais le flingue ressemblait beaucoup à celui de la NES. Il était juste tout noir, quoi, code couleur de Sega à l'époque.
Ouais,
Et,
bien
c'était
sûr.
Beaucoup de fun. Et puis la Game Gear, il y avait des jeux incroyables dessus. Donc j'ai commencé avec des Spider-Man Columns, bien sûr.
Ouais.
Contournable Columns, le Tetris de la Game Gear, quoi.
Ouais, clairement.
Voilà. Donc
clairement.
Ça a été mon premier contact.
Ok. Et avec les jeux Disney, c'était quoi du coup? Alors, tu te
Alors,
souviens le
Disney,
premier jeu
c'est
Disney?
arrivé un peu plus tard parce que sur la Mega Drive, moi j'ai eu, je pense au tout début, des jeux qui étaient adaptés à mon âge. Bon, le classique Sonic qui
Ouais.
était vendu avec la console, donc forcément tout le monde l'avait. Mais très vite, j'ai dû avoir Le Roi Lion
D'accord.
et ça a été mes deux premiers jeux Disney. J'aime beaucoup Le Roi Lion, mais il était assez dur. Quackshot, j'ai une grosse affection pour ce jeu parce qu'il est à la fois accessible, à la fois il est un peu challengeant,
Ouais.
surtout quand on a 8 ans, quoi, 9 ans, allez. Et puis c'est beau, c'est coloré, les musiques sont très sympas, les animations sont vraiment bien fichues. C'était du plutôt haut niveau sur des consoles 16 bits. Donc c'était ouais, c'est enfin vraiment Quackshot, pour ceux qui l'ont pas fait, je le recommande chaudement. C'est un très très bon jeu.
Ouais, clairement.
Je pense que c'est un des meilleurs jeux Disney de la génération 8-16 bits. Hein.
Ouais, je suis
un des
d'accord.
meilleurs, pas le meilleur. Hein,
Non, 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 mais bien sûr, bien sûr.
En
Ok.
tout cas, dans les jeux avec Donald, il y en a quand même un certain nombre. Pour moi, c'est le meilleur. Même si on en parlera après, il y en a un autre qui est sorti, mais en fin de vie de la console, qui était très bien, mais un petit peu en deçà. Et puis, en fin de vie de la console, donc forcément, il a été beaucoup moins populaire.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et ben moi, pour ma part, j'en ai eu aucune. Aucune des. Ni Game Gear, ni Master System, ni Mega Drive. Par contre, j'avais la chance. Oui, personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis qui, eux, les avaient. Et donc, j'ai un pote qui avait la Game Gear, un pote qui avait la Mega Drive et un autre qui avait la Master System. Et la première que j'ai découverte, c'était la Master System avec Alex Kidd, puisqu'il était fourni, tu n'avais même pas besoin de cartouche.
Il est dans la console, tout à
ouais,
fait.
il était dans la console, et ça, c'était assez, assez fou, chez un de mes potes. Et ensuite, je saurais plus dire, par contre, entre la Mega Drive et la Game Gear, laquelle j'ai pu avoir en premier entre les mains. Mais je sais que j'avais un pote qui avait la Game Gear et pas mal de jeux. Il avait Road Rush, il avait Columns, il avait les Sonic qui étaient dessus, qui étaient vraiment bien portés d'ailleurs sur Game Gear.
Oui. La Game Gear, hein, vraiment, c'était une Master System portable, hein, grosso modo,
Ouais.
en termes de puissance. D'ailleurs, il y a un adaptateur Master System Game Gear. Et donc,
Ouais.
la Game Gear peut lancer en natif les jeux Master System avec ce mode adaptateur. Après, ça fait une belle grosse machine.
Ouais, dans les mains, ouais, du coup, avec
Ouais,
la cartouche
pour
et
mettre la
tout.
loupe, l'extendeur de batterie.
Ouais, c'est ça.
Ça fait une console de salon portable, mais.
C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que bah, je me souviens, ce pote, tu vois, quand on faisait des soirées où nos parents étaient amis aussi, et du coup, bah, tu vois, il venait avec sa console. Alors, ok, on jouait sur secteur, mais il pouvait l'emmener partout, quoi. Voilà, j'ai. Et ça m'a permis de découvrir l'univers Sega, alors que moi j'avais bah, une NES, une Game Boy. J'ai pas eu la SNES, mais ça j'en parlerai plus tard dans les anecdotes pourquoi. Et sur les jeux Disney, je pense que le tout premier, ça doit être DuckTales, je pense, sur NES, le premier Disney que j'ai pu avoir. Et du coup, pas du côté Sega. Par contre, bah, j'avais un pote qui, lui, avait la Mega Drive et avait donc Aladdin, Le Roi Lion, Quackshot. Il avait vraiment la totale et c'est vrai que bah, ça donnait clairement envie. Et en plus, moi, j'avais pas de Super NES, bah, quand t'as qu'une NES et que tu vois tous ces Disney sur Mega Drive, ça fait envie, clairement, clairement.
Ça fait clairement envie, ouais.
Ouais.
Et alors moi, j'étais ce fameux pote qui avait la Mega Drive
C'est
quand
ça,
tous
ouais.
les autres étaient chez Nintendo avec la NES et la Super NES par la suite.
Ouais.
J'étais ce fameux pote qui avait la Mega Drive, moi.
Non, mais c'est. Voilà, après, c'est ça qui fait le charme aussi du jeu vidéo de l'époque, c'est que on arrivait à pouvoir jouer à tout, parce que, bah, en fait, tout le monde avait un petit bout, quoi. Donc, et c'était des vraies découvertes, c'était pas.
Ah oui.
Tu vois, comme aujourd'hui, quand t'as un Game Pass, bah, au vrai, tout le monde l'a, tout le monde a les mêmes jeux dessus. Et t'as pas forcément besoin d'aller chez un pote pour découvrir ce qu'il y a dedans, quoi.
C'est
Donc,
vrai.
c'était, voilà, c'était une autre
Et
époque.
puis, bah oui, c'était une autre génération où, mais ça, on en a déjà parlé, hein, où les jeux, c'était le cadeau d'anniversaire ou de
Ouais.
Noël. T'en avais en gros deux par an, quoi. Et du coup, ben oui, pour découvrir d'autres choses. Alors, deux parents, j'exagère parce que t'avais un peu la famille, machin, mais ça tournait à trois, quatre, allez, cinq jeux par an. Et il fallait faire avec ça.
Ouais.
Il y avait bien les tontons, les grands-parents, machin, qui contribuaient aussi, mais bon, des fois, tu avais aussi une chemise à Noël.
Non, mais bien
Pas
sûr.
forcément un jeu. Mais du coup, pour découvrir, effectivement, c'était le réseau de copains,
Ouais.
bien sûr, en physique, hein, on n'était pas dans le dématérialisé à l'époque. Donc, il fallait aller chez les copains, voir leur console, leur jeu, et découvrir. Et c'est vrai qu'on pouvait montrer aussi les jeux qu'on avait, nous, et faire découvrir. Eh, hey, viens voir, j'ai une pépite à la maison.
Exactement.
Regarde Quackshot comme il est beau, regarde Road Rash comme c'est génial, tu fais la course et tu peux taper les ennemis. Voilà, ça
Ouais.
c'était des jeux qui étaient vraiment. Road Rash, c'est un jeu que j'affectionne aussi
Ah, qui
particulièrement.
était incroyable. Ouais. Moi, j'avais bien aimé aussi. Alors, c'est pas dans le thème d'aujourd'hui, mais vraiment,
Non,
c'est.
mais c'est Sega quand même, hein, voilà.
Oui, c'est Sega, ouais. C'est Sega. Donc,
C'est sur Sega. Donc ça fait partie des jeux un peu pépites. Batman, bien sûr, il y en avait eu plusieurs des Batman sur Sega, et à la fois sur Game Gear, à la fois sur Mega Drive aussi.
Ouais.
Ah
Et
ouais, il y en avait.
moi, je me souviens aussi du Roi Lion sur Game Gear, qui était vraiment bien aussi. Hein, en vrai, je sais plus si c'est le portage de la Mega Drive ou pas, mais.
Je me sens bien que c'est le portage de celui de la Mega Drive, ouais, qui est
Ok.
plutôt bien réalisé. Ouais. Alors bien sûr, on perd en résolution, on perd aussi en couleur, mais ça reste un très très bon portage. Il est très jouable sur
Ouais,
Game Gear.
parce que moi j'ai souvenir d'y avoir joué bah, chez le pote qui avait la Game Gear en fait. Hein, donc voilà. Et du coup, toi, ça t'évoque quoi? Alors, quand on parle des marques, que ce soit Sega ou Disney, qu'est-ce que ça évoque chez toi?
Alors Sega, il y a un côté assez nostalgique parce que c'est la console que j'ai eue, c'est la première console que j'ai eue, et c'est
Ouais.
la première marque sur laquelle j'ai joué, au-delà de la posséder, c'est la première marque sur laquelle moi j'ai joué. Et puis un peu plus tard, à l'époque de la Mega Drive, il y a eu la campagne marketing de Sega Et on se souviendra tous, enfin pour ceux qui ont des cheveux ou de la barbe blanche comme nous, à la publicité avec le slogan principal, Sega, c'est plus fort que toi. Et des
Ouais.
pubs toujours plus déjantées avec des punks qui cassaient des trucs avec des battes de baseball qui arrivaient sur des motos. Waouh, ça en jetait quoi. Et on était pré-ado, on commençait à grandir. On se dit, ça y est, on a une console de grand quoi. Avant l'arrivée de PlayStation et leur campagne publicitaire agressive, un petit peu dans le même ton finalement, hein,
Oui,
quand
bien
on
sûr, bien sûr.
analyse. Sega était un peu précurseur que ça là-dessus, et ça faisait vraiment des pubs qui en jetaient. Il y avait une espèce de fierté de posséder Sega parce que c'est pour les forts, c'est pour les durs. Il y avait aussi les campagnes publicitaires sur des affiches, des trucs comme ça, où on voyait Mega, c'est plus fort que Super.
Oui.
Sous-entendu, Mega Drive, c'est plus fort que Super Nintendo. C'était très bien joué parce que on cite pas les marques, mais en même temps, ça veut tout dire. Donc c'était des belles campagnes de pub. J'en ai encore des souvenirs qui repopent comme ça. Et du coup, bah, j'ai ce lien un petit peu particulier avec Sega. Et puis bah, après, sur la fin de vie de la Mega Drive, quand moi je pouvais m'offrir une console, alors je sais pas si je pouvais m'offrir ou si c'était un cadeau que je demandais, mais la question se posait, est-ce que je pars sur la Saturn,
Ah
qui était
oui.
donc la successrice?
Ouais.
Ou est-ce que je transgresse et je passe chez la console qui avait l'air quand même incroyable, qui était la PlayStation.
Ouais.
Et je suis parti chez PlayStation et du coup, bah, mon cœur a penché côté Sony et depuis, je suis vraiment très très orienté Sony.
OK.
Voilà. Et du coup, j'ai pas possédé la Saturn, j'ai pas possédé la Dreamcast, même si c'était une console incroyable. Bon, aujourd'hui, il me manque que la Saturn. Comme je l'ai pas possédé, que j'ai joué à aucun jeu. J'ai pas vraiment le. Je ne ressens pas le besoin de la posséder. Par contre, les
Ouais.
autres, je les ai achetés au fur et à mesure. Ma première Game Gear, et pourtant, c'est une console que j'adore, je l'ai eue il y a 2 ans.
Oui,
Je l'ai achetée
c'est
à
marrant.
Francky, que tu connais. Hein. À Francky, mon kiki, que tu connais. Il vendait pas mal de sa collection. Je lui ai racheté sa Game Gear avec tous ses jeux. Je lui ai racheté sa Master System. Et je les ai eus donc il y a 2 ans. Et puis bah, depuis, je me suis principalement dans les réparations de consoles, spécialisé dans les réparations de Game Gear, parce que je trouve que c'est des consoles incroyables qui méritent d'être sauvées.
Ouais. Oui, qui peut, bon, on en parlera après, mais qui peuvent être modifiés pour être encore améliorés. Donc ça, c'est cool.
C'est ça.
Et par rapport à Disney, pareil, bah, alors je pense comme tout gamin, de toute façon, c'était quelque chose
Ouais,
qui te
c'est ça.
faisait rêver.
Gamin, bah le Roi Lion, je l'ai vu au cinéma. Ça, c'est peut-être pas le premier film que j'ai vu au ciné, mais peut-être pas loin, hein, parce que
Ouais.
j'ai pas été très jeune au ciné, ou alors j'en ai pas de souvenir. Et du coup, puis le Roi Lion, il est quand même magnifique. Et c'est un film qui m'avait marqué, et de pouvoir le retrouver en jeu vidéo et incarner le personnage principal dans le jeu, même s'il était difficile. Je pense que je l'ai jamais fini. J'en garde quand même un excellent souvenir.
Ouais.
Le Roi Lion, c'était vraiment pépite. Et puis comme il était dur, c'était l'avantage des jeux de l'époque, mais il y avait une grosse durée de vie. Même si
Ah
le jeu
ben.
pouvait finir vite avec un peu de dextérité et de talent, l'avantage des jeux difficiles, c'est que c'est die and retry, et puis on recommence, on recommence, on
Ouais,
recommence,
puis quand t'es
jusqu'à
gamin,
un moment.
ça te gêne pas de rester au premier niveau en vrai. C'est quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas aussi frustrant que quand t'es adulte, quoi, je
Bah,
trouve.
quand t'es gamin, ouais, t'as pas la même perception. Alors c'est toujours pareil. Je pense que les gamins de notre époque et les gamins d'aujourd'hui n'ont pas la même perception, puisque à notre époque, on avait de toute façon pas beaucoup de jeux. Donc c'était soit le Sonic qui était intégré dans la Mega Drive, soit le Roi Lion que tu venais d'avoir à Noël. Et après, en dehors de ça, t'es soit t'es allé chez les copains, soit tu te contentais des jeux que t'avais, quoi.
Ouais,
Donc de toute
c'est vrai
façon,
aussi.
c'est ça où aujourd'hui, avec le Game Pass, la profusion de jeux, et puis. On est aussi d'une génération où nos parents connaissaient peut-être pas aussi bien le jeu vidéo que nous. Moi, mon père connaissait pas,
Ah, moi
il
non
n'aimait pas
plus.
ça.
Ouais.
Il a essayé de jouer avec moi, il n'a jamais aimé ça. Et du coup, bah, j'étais un peu seul dans mon monde. Donc, j'avais pas forcément une accessibilité aux jeux vidéo énorme à la maison, quoi. Que
Ouais.
les gosses aujourd'hui, je prends l'exemple du mien, hein, qui a 5 ans, bah, il a accès à mes jeux. Et puis. Il n'y a qu'à se servir, je veux dire, il y a des consoles rétro de partout dans le décor. Papa, je peux jouer à la Game Boy, je peux jouer à la Game Gear. Ben, si tu veux, oui. Bon, il est encore un peu petit, mais dans quelques années, aucun doute qu'il viendra me taper mes consoles dans mon bureau et
Ouais,
jouera
c'est vrai
avec,
qu'ils ont
quoi.
plus de facilité à tout ça, ouais, clairement,
Ben,
clairement.
parce que nous, on est, enfin, en tout cas pour ma part, mais je crois que toi, c'est pareil, on est des passionnés de jeux vidéo
Ouais.
Et du coup, bah, on adore partager notre passion, jouer, collectionner aussi. Donc forcément, les gamins, ils sont un peu baignés là-dedans et ils voient tout ça, ils y ont accès. Voilà.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, bah, pour ma part, Aladdin, par contre, moi, c'était vraiment mon premier film que j'ai vu au cinéma. Donc, bah, tu vois, c'était marquant. C'était un Disney, du coup. Le deuxième film, ça devait être Christophe Colomb, je crois. Donc, c'était, tu vois, deux styles complètement différents.
Moi, c'était Jurassic Park et j'ai passé mon film sous le siège. Je pense que mon père m'avait amené un petit peu jeune.
Ah oui, ok, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Alors moi, j'ai adoré Jurassic Park, mais bon,
Pas que j'ai
c'est...
pas aimé, mais j'ai eu très très peur. J'étais vraiment gosse.
Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, ouais, Disney, bah, c'est les premiers films que j'ai vus au cinéma. J'en avais, du coup, bah, tu vois, c'est très marquant quand même. Le Aladdin, en plus, que ce soit sur tout support, était très bien fait, très bien modélisé et représentait bien, tu vois, tu retrouvais vraiment le film, je trouve, dans le jeu, que ce soit sur Mega
Que ce
Drive ou
soit
sur
sur
SNES.
Super NES comme sur Mega Drive.
Ouais, clairement, clairement.
Alors, on rentrera pas dans le débat Aladdin Super NES versus Aladdin Mega Drive.
Non, 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 mais
Tout le monde
les
sait
deux
que
sont très
Mega Drive
bien.
est mieux. Mais il y a, je pense, beaucoup de gens qui font cette comparaison, qui s'arrêtent au premier niveau. Et effectivement, le premier niveau est très, très similaire.
Ouais.
Vraiment. C'est à Agrabah, on est le voleur avec Abou. Ok. Par contre, dès le niveau 2, ce sont deux jeux complètement différents.
Ouais,
D'ailleurs, c'est
clairement.
deux développeurs différents. Et le gameplay est différent, les niveaux sont différents. Ça suit la trame principale de l'histoire du film. Mais il y a des divergences quand même entre les deux. Et puis ouais, c'est vraiment pas les mêmes gameplays. Et ça, en fait, je pense que beaucoup le comparent par rapport au niveau 1. Alors effectivement, sur une console, il va être plus coloré, sur l'autre, le son va être meilleur. Ok, mais il faut pas s'arrêter qu'au niveau 1. Et du coup, si tu fais tout le jeu sur les deux supports, c'est difficile de dire lequel est le mieux, parce que en fait,
Oui,
les
c'est deux
deux sont
jeux.
deux très bons jeux et très
Oui.
différents. Ils sont pas comparables.
Non,
Voilà.
bien sûr,
C'est
t'as
comme
raison.
comparer Sonic à Mario, en fait. C'est deux jeux différents.
C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et pareil, bah, pour Sega, ce que ça représentait pour moi à l'époque, il y avait quand même de l'envie, parce que comme tu le disais, les campagnes de pub étaient quand même assez fortes. Et moi, bah, j'ai pas eu de. En plus, j'ai pas eu de SNES. Donc, en fait, je suis resté sur ma NES et ma Game Boy. Donc c'est clair que quand je voyais des potes qui avaient la Mega Drive, bah, j'étais un peu jaloux et j'ai patienté et ça fera partie de l'anecdote, mais pour avoir autre chose en me disant voilà je vais essayer d'avoir des choses plus costauds, et ce qui n'était pas forcément le cas, mais voilà. Et en plus la Mega Drive, j'ai un de mes potes avait le Mega CD aussi derrière. Et c'est vrai que ça faisait envie, quoi, de pouvoir lire des CD et tout. C'était vraiment tout nouveau. Il y avait les magazines, je sais pas si tu te rappelles, des magazines où tu avais des CD inclus dedans, les Dance Attitude, les trucs comme ça, où tu avais des CD. Et c'est, bah, avec le méga CD, tu pouvais lire tout ça, quoi. Et moi, à l'époque, j'avais même pas de poste ou rien. J'avais donc, bah, les premiers trucs CD, tu les lisais avec ta console et c'était juste fou, quoi.
Ah ben clairement. Et beaucoup se rappellent des CD de démo PlayStation, mais ça n'a pas été les premiers à faire des CD dans des magazines, même dans des paquets de céréales. Hein, il y avait des fois.
Ouais.
Il me semble que c'est bien Sega qui a lancé le truc avec le Mega CD. Alors le Mega CD, ça peut être un sujet à part entière parce que c'est un accessoire de la Mega Drive, tout
Oui.
comme le 32X. Là, ça a été. Je pense que ça a marqué le début de la fin de Sega en fait. Ils ont voulu en faire toujours plus sur leur Mega Drive, repousser toujours les possibilités de la Mega Drive. Alors c'était génial parce qu'on a eu la première 3D avec le 32X,
Ouais.
on a eu du FMV avec le Mega CD, c'était génial, mais il fallait l'accessoire en plus et c'était pas donné. Et
Ouais.
puis du coup, la 3D c'était avec le 32X, hein, les jeux FMV c'était avec le Mega CD, donc ça faisait deux accessoires qui étaient les deux
Ouais.
assez chers.
Moi,
Finalement,
j'ai connu personne qui avait les deux, hein. J'ai un pote qui avait le Mega CD, mais je connaissais personne d'ailleurs qui avait le 32X. Et du coup, bah, personne qui avait les deux, parce que quoi, ça revenait super, super cher, quoi.
très cher, et puis il n'y a pas énormément de jeux qui sont sortis sur l'un comme sur l'autre des deux supports accessoires, on va dire. Donc forcément, ça freinait un peu, quoi. Les jeux coûtaient cher, les accessoires coûtaient cher. Bon, voilà, quoi.
Ouais. Et en plus, alors je sais pas si tu te rappelles, mais les jeux 32X, il y avait beaucoup de jeux que tu avais en arcade, les Virtua Racing, Virtua Fighter, que tu avais en arcade. Et les prix
C'était un peu
étaient.
l'argument du 32X, hein, de dire on vous amène l'arcade à la maison.
Oui,
Hein.
mais du coup, vu que l'arcade était encore assez accessible, moi j'avais une salle d'arcade à côté du collège. Bah, en fait, si je voulais y jouer, j'allais en arcade, quoi. Et c'est vrai que. Quoi, se dire, fallait acheter la Mega Drive, racheter encore le 32X derrière. Bah, tu te dis, de toute façon, tes parents, ils auraient jamais pu, donc bah tant pis, tu mettais quelques pièces de temps en temps et voilà quoi.
Ok, alors ok, quand tu as une salle d'arcade pas très loin, nous, la salle d'arcade la plus proche, c'était, fallait traverser, oh, je suis en région lyonnaise, hein, pour ceux qui ne savent pas, je suis en périphérie lyonnaise, il fallait traverser tout Lyon pour aller
Ouais.
jusqu'à la Part-Dieu, qui est le grand centre commercial de Lyon, et la seule salle d'arcade qu'on connaissait, elle était à la Part-Dieu, quoi. Ça
Ouais.
faisait loin, fallait prendre deux métros, un bus, on mettait 1 heure et demie pour aller à la salle d'arcade.
Ouais.
Donc, c'était pas si accessible que ça prenait du temps, ça prenait du pognon parce qu'il fallait payer les tickets de bus, machin. Au final, l'accessoire aurait pu être intéressant pour nous et d'avoir les jeux d'arcade à la maison, quoi.
Ouais.
Bon, après, l'accessoire était trop cher. Non, voilà, j'ai pas
Mais
eu
non,
ce
mais
choix.
bien sûr, c'est vrai que ça dépend aussi les situations. Après, donc, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé les dates, mais grosso modo, on est dans les années 90, donc.
Début 90 pour la sortie de la console. Donc la Mega Drive, pardon, est sortie en 90, septembre
Ouais.
90. La Game Gear a suivi en juin 91. Donc elle est arrivée bien après la Game Boy, hein, bien après, mais pour la concurrencer. Et puis après, bah, si tu veux qu'on parle des dates de sortie des jeux.
Oui, on peut, ouais, clairement, clairement.
Donc Quackshot est sorti en décembre 91. Donc voilà, je disais le jeu avec Donald, qui pour moi est un des meilleurs jeux de Donald, tout support confondu. On
Ouais.
a eu aussi les jeux basés sur Mickey. Donc
Oui.
on avait Castle of Illusion sorti en 90 sur Mega Drive et sur Game Gear. Il y avait même eu une version Master System, hein, un portage Master System, qui
Ouais.
était très bien, franchement.
Il y a eu beaucoup de jeux, hein. Le Sonic a été porté aussi sur Master System très bien. Il y a eu.
Le Sonic, il y a une grosse dégradation quand même, parce que comment dire, la base du gameplay de Sonic, c'est la vitesse, et la
Oui.
Master System, elle n'est pas capable d'avoir cette vitesse. Par contre, pour des jeux plus platformer, aventure, comme Castle of Illusion, le portage était très très bon. Alors, c'était pas de la qualité de la Mega Drive, mais n'empêche, c'était moins défini, un peu moins coloré, parce que la palette de couleurs en 8 bits, elle n'est pas la même qu'en 16 bits, c'est
Non,
sûr,
ouais.
mais c'était très jouable, très propre. Franchement, c'était des bons jeux sur Master System aussi. On a eu, donc, dans les jeux Mickey, on a eu World of Illusion en 92, sachant qu'un des premiers jeux Disney de sortie, c'était DuckTales, donc t'en parlais tout à l'heure, qui est sorti en 89 sur la NES, hein, quand même.
Oui.
Donc celui-là, il date, hein, il était très très bon celui-là. Il y a
Ah
eu un
non, mais moi
remaster
j'en ai
d'ailleurs
des
de
excellents
DuckTales.
souvenirs aussi et pareil, ça c'était dans les quoi. Faut se rappeler que les Disney, donc il y avait les films, mais c'est vrai qu'il y avait aussi les dessins animés en fait. Donc Mickey, Donald,
Bien sûr.
Picsou, tout ça, ça passait dans les émissions
Alors,
type.
Mickey, il a eu un film ou deux avec Fantasia 2000, des choses comme ça, mais
Ouais.
c'était principalement des dessins animés, oui, voilà, comparé aux films d'animation. Je fais la différence entre les deux.
Bien
Et du
sûr.
coup, on retrouvait le personnage qu'on avait dans Recréa 2 ou des choses comme ça, ou sur sa cartoon, avec les Disney, Mickey, ou Journal de Mickey aussi, il y avait pas. Non, ça c'était un magazine, je ne sais plus.
Ouais, un magazine, ouais, le journal de
Et
Mickey, il
du
y a
coup,
eu
en trouvant notre
Picsou
personnage,
Magazine.
on avait soit en BD magazine, soit en dessin animé du dimanche soir ou du mercredi après-midi.
Ouais.
En jeu vidéo, c'était très sympa. Et puis, bah, il y a eu toute une vague, donc les Castle of Illusion 90, World of Illusion, qui est très très bon, qui peut et qui doit, pour moi, se jouer en coop. À deux, c'est une pépite. On a donc Aladdin en 93, suivi du Roi Lion en 94. Et donc, fin de vie de la Mega Drive, est sorti un jeu Donald qui est très très bien. J'ai connu il n'y a pas longtemps, en fait. C'est Donald in Maui Malar. C'est un jeu où l'animation, elle est vraiment impeccable. C'est
OK.
mieux animé que Quackshot.
OK.
Par contre, l'histoire, le gameplay est un peu moins fin. Mais très 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 bon jeu, moins connu parce que en
Ah, je connais pas
95
du
on
tout.
sortait la PlayStation.
Donc,
Comment?
je connais pas du tout, du coup.
Tu connais pas du tout?
Non.
Bah, penche-toi sur le sujet. Peut-être que ça peut être un jeu à faire en
Ouais,
live avec
clairement, en
toi
live, ouais, bah, bien sûr, ouais.
pour un jour de rétro. C'est un très très bon jeu. Moi, je l'ai connu il y a pas longtemps parce que Edouard de Rétro Découverte a fait une vidéo sur tous les jeux Donald. J'ai pas pu louper cet épisode, forcément.
Oui, bien sûr.
Rockshot en tête, mais c'est là que j'ai vu qu'il y en avait plein, plein, plein de jeux Donald. Enfin, Donald et puis son univers, hein, avec Riri, Fifi-Lou,
Oui.
Picsou, c'est-à-dire Donald et son univers étendu. Et donc, ils ont parlé de Maui Mallard, je ne connaissais pas non plus, et en fait, c'est pas étonnant parce que c'est sorti vraiment en fin de vie de la console, en 95. Et en 95, qu'est-ce qui sortait sur le marché? La PlayStation. Et la PlayStation, on va pas se mentir, ça a éclipsé tout le marché jeux vidéo.
Oui, bien sûr. Et ils ont eu un budget com en fait qui était énorme et jamais vu en fait dans le jeu vidéo. Donc voilà, on va pas
C'est
refaire
ça
l'histoire
le.
hein,
On va pas
de...
refaire l'histoire PlayStation, mais c'est ça
Non.
la force des PlayStation ou même de Xbox aujourd'hui. C'est que PlayStation, derrière, ils ont Sony.
Oui.
Que Sega, derrière, ben, ils ont Sega.
Oui,
Tout.
et à la base, ils étaient éditeurs de jeux vidéo
Bien
et
sûr.
donc en fait, ils sont revenus à ce qui à leur à leurs premiers amours au final. Donc
Oui.
voilà, c'est pas une fin en soi non plus. Hein. Faut pas non plus
Non.
pleurer le hardware Sega. Ils
Si,
étaient.
il
Alors
faut
ça
pleurer.
fait chier parce que en plus, faut avouer qu'aujourd'hui, on est dans un oligopole. Donc il y a que trois constructeurs et ça restera comme ça, je pense, pendant un bon moment, quoi. Pour le moment, je vois pas d'autres constructeurs pouvoir revenir
Un peu
dans
comme
la
le jeu
course.
vidéo, tu as les indépendants, je pense à la Playdate, qui est une
Oui.
petite console très originale, avec un concept un peu novateur, quoi, et surtout original. Mais il y en a très peu, quoi. Il y en a
Ouais.
très peu.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Après, tu as Analog qui fait des consoles avec des FPGA, mais c'est pour jouer aux jeux
Oui,
d'ancienne
au jeu rétro,
génération à la
ouais,
cartouche.
bien sûr.
Voilà. Mais c'est sorti de ça, tu n'as pas grand-chose, quoi.
Ah, on est d'accord, on est d'accord. Et du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail des jeux, toi, ceux qui t'ont le plus marqué, c'était lesquels, du coup?
Alors, en jeu, sur support Sega.
Ouais, sur
On va
support
rester
Sega,
là-dessus.
ouais, tout à fait, ouais.
Voilà. Je vais y découper, on va dire, en trois parties. Les jeux console portable, donc Game Gear.
Ouais.
Les jeux Mega Drive. Et puis les jeux Disney, du coup, parce qu'on a dit qu'on mixait les deux ce soir.
Ouais.
Je vais commencer par la Mega Drive, parce que c'est la console que j'ai possédée en premier. Bon, bah, Sonic, forcément, puisqu'il était inclus avec et que j'ai poncer le jeu en large, en travers, bah oui, pas le choix. De toute façon, j'avais que celui-là pendant longtemps.
Ouais.
Donc forcément, il est marquant. Et je pense que là, j'ai rien de nouveau dans ce que je dis. Tout le monde qui a possédé une Mega Drive a dû être marqué par Sonic, le 1, normal. Voilà. Comme Alex Kidd dans la Master System. Parce que Master System, elle n'avait pas toujours eu le même jeu à l'intérieur. Des fois, c'était Alex Kidd, des fois, c'était un autre.
Alors, je crois qu'en Europe, il n'y a eu que Alex Kidd, mais c'était sur la Master System 2. Mais je ne sais pas si on a eu quoi la 1. Je ne sais plus si elle avait une cartouche ou si c'était une autre quoi. Si il y avait un jeu
Je ne
intégré
sais
ou pas, et si
plus.
c'était un jeu, c'était un autre jeu en tout cas.
Ouais, alors je ne sais pas si sur une des versions de la Master System, il n'y avait pas le jeu avec le pistolet, justement, qui était intégré aussi à la
Ah,
console.
peut-être.
Voilà, pour
Peut-être.
promouvoir l'accessoire, quoi. Voilà.
Ouais. Sur la
Donc
1,
sur
oui.
Sonic,
Ok.
forcément. Ensuite, jeu qui m'a vraiment marqué, parce que c'est pareil, j'ai joué beaucoup, 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 et j'y joue encore même de temps en temps, parce que j'adore ce jeu, c'est Road Rash. Je l'ai fait en live il y a
Ouais.
quelques mois. Road Rash, le premier, je trouve les musiques incroyables, la jouabilité, elle est super,
Ouais.
et le concept de faire des courses, de pouvoir se faire arrêter par la police, on est bien, bien avant les Need for Speed, là.
Ouais.
Le concept était déjà là avec Road Rash, hein. Et de pouvoir taper ses adversaires, de leur voler une batte de baseball ou une matraque ou une chaîne ou machin pour pouvoir les taper avec, c'était vraiment, quand on était gosse, ça faisait rêver, quoi, ce jeu, quoi. Et
Ouais,
puis, il y
clairement.
avait des petites séquences, alors c'était vraiment petit, il y avait de discussions avec des personnages secondaires, quoi. Donc, il y avait une histoire, quand même, malgré tout, autour du jeu, c'était pas que de la course. Donc, ça faisait un jeu assez complet, plutôt bien fichu, avec du challenge, où on progressait, on gagnait de l'argent, on achetait des nouvelles motos, etc., etc. Donc, ça, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. J'ai joué mon enfance à ça.
Ouais.
Quackshot, forcément, c'est un jeu que j'ai eu assez tôt. Je pense que mes parents ou grands-parents qui m'ont offert ça se sont pas trompés, parce que déjà, c'était un jeu qui était entièrement adapté à mon âge, hein. J'avais entre 8 et 10 ans,
Oui.
donc c'était très, très adapté à mon âge. Et en plus, bah, il était, comme je disais tout à l'heure, il était beau, il était fun, il était coloré, les musiques étaient sympas, le gameplay était vraiment aux petits oignons. C'était évolutif parce que, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on incarne Donald qui a un lance-ventouse, une
Oui.
ventouse bouchée les toilettes là. Au début, on commence avec des ventouses toutes basiques qui permettent juste de taper les ennemis, puis après, on obtient des ventouses d'une autre couleur qui permettent de se coller au mur et donc de monter avec des niveaux un peu plus en verticalité. Après, on avait des ventouses encore d'une autre couleur qui permettaient de s'accrocher aux ennemis volants et donc de pouvoir bah, passer des distances, des gouffres et tout ça, qui n'était pas possible sans. Donc, c'était évolutif en plus, on gagnait du stuff qui nous permettait d'avancer un peu plus loin dans le jeu.
Ouais, ça
Il y
fonctionnait
avait
pas
les
avec des
gouffres.
power-ups, c'est ton matériel à toi en fait
Ouais, c'est
qui
ça.
s'améliorait. Ouais.
C'est ça, le
Donc
power-up, c'était je récupère un objet supplémentaire. On
ouais.
obtenait des boules de chewing-gum qui permettaient d'enfermer les ennemis dedans. Voilà, c'était vraiment très très sympa. Franchement, le Mario Wonder qui est sorti il n'y a pas longtemps, où justement, bon, voilà, c'est une transformation du personnage, mais qui permet de balancer de l'eau, de balancer
Oui.
des boules, des machins. Et ben, franchement, il y avait déjà tout dans Quackshot, hein.
Ouais, bien sûr. Bien
C'était
sûr.
déjà tout présent, quoi. On pouvait balancer des pop-corns qui tiraient un peu en diffusée pour toucher des ennemis en haut, en bas en même temps. Donc c'était assez complet. Et puis, bah, il y avait un petit côté, je ne vais pas dire stratégie, mais il fallait appréhender le jeu d'une certaine manière parce que les niveaux, il y avait un ordre précis à respecter, un peu comme Megaman.
Ouais.
Tu les faisais pas dans le bon ordre, bah tu débloquais pas la clé pour aller ouvrir le truc qui était à la fin du niveau suivant ou précédent. Enfin, y avait un ordre précis, c'était pas l'ordre de gauche à droite sur la carte, quoi. C'était
Ouais.
des fois tout en haut à gauche, en bas à droite, et on mixait comme ça les mondes. Fallait chercher un objet, tu revenais, ça débloquait quelque chose, tu pouvais finir le niveau. C'était très très sympa. Et donc, c'était un petit avion qui venait chercher Donald, et dedans, il y avait Riri, Fifi, Lolo qui récupéraient Donald. C'était très, très sympa.
Ouais, vraiment, c'est très très beau
Ouais,
jeu.
il était top celui-là. Il y avait un peu le Roi Lion, mais moins. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même moins joué au Roi Lion. Voilà.
Ok.
C'est les jeux les plus marquants. Après, si je regarde ce que j'ai là-haut, si, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, et celui-là, j'y ai joué à la fois sur Mega Drive. Et sur Game Gear, ça me permettra de faire la transition, c'est Desert Strike.
Ah oui.
Un jeu incroyable.
Ouais.
Electronic Arts aussi, je crois, Desert Strike. Tout comme Road Rash, si j'ai pas de bêtises.
Oui.
Jeux qui sont très reconnaissables. Alors, je sais qu'on est en podcast, mais pour ceux qui sont en live, tiens les cartouches étaient très reconnaissables puisque en fait Electronic Arts ne voulant pas payer l'espèce de licence de Sega ont fait leurs propres cartouches. Elles étaient reconnaissables avec la petite encoche jaune qu'il y avait sur le côté. Elles étaient plus hautes que des cartouches classiques. Elles avaient un format un peu plus haut, donc elles dépassaient plus de la console, et elles avaient cette fameuse encoche jaune avec le logo EA dessus. Qui différenciait les cartouches. Donc, elles n'avaient pas le même format, elles n'avaient pas le même arrondi sur les côtés, elles rentraient très bien dans la console, mais c'était pas le même form factor, et du coup, ils pouvaient outrepasser, en gros, les royalties
Ouais,
de
pour la
Sega.
production des
Ils ont
cartouches.
contourné, en fait, le truc Sega. Et du coup, ouais, il y avait donc le Road Rash, on en a parlé, et Desert Strike, qui était un jeu où on était, en plus, on était donc années 90, en pleine guerre du Golfe. Que
Oui.
fait Electronic Arts? Eh ben, on va sortir un jeu dans la guerre du Golfe, pas de problème. Donc on est, je crois que c'est en Afghanistan, et on doit détruire des centrales électriques, des stations radars, sauver des otages, tuer les méchants.
Oui, bah
Voilà.
oui, très très
Monter les
américanisé,
avions.
mais ouais.
Voilà. Bah oui, hein, alors, à l'époque de la guerre du Golfe, nous, c'était
Ouais,
les infos
clairement.
qu'on avait en Europe. Hein.
Ouais.
Récupérer du carburant et des munitions, parce que bah, les munitions elle se vidait, le carburant, il se vidait, et puis quand on
Ouais.
arrivait à court de munitions, bah, face à l'ennemi, on était démunis, et quand on n'avait plus de carburant, bah, on se crachait, donc il fallait faire gaffe à sa jauge de carburant, à sa jauge de munitions, on avait une capacité max des otages, donc il fallait faire des allers-retours, du coup ça consommait du carburant, il fallait rechercher, c'était génial, et
Ah,
bien
vraiment très
que
bon jeu,
en
ouais.
anglais, à l'époque, il y avait très peu de jeux traduits sur Mega Drive,
Ouais.
sur Super en fait, il n'y a pas que sur Mega Drive.
Oui, sur toutes les consoles, hein.
On faisait comme on pouvait, on apprenait l'anglais comme tant bien que mal. Ouais, c'est un jeu très très sympa, ça aussi. J'ai beaucoup beaucoup joué, et du coup, bah, celui-là, mon beau-père l'avait sur la Game Gear et moi je l'avais sur la Mega Drive, donc c'était vraiment le même jeu. Hein. Alors là, pour le coup, très peu de différence. Bien sûr, on perd en résolution,
Oui, bien sûr,
en
en
qualité des
couleur.
sons sur
Ouais.
la Game Gear par rapport à la Mega Drive. Mais franchement, c'est un portage parfait. Il est très très jouable sur Game Gear. Incroyable comme jeu aussi. Très
Ok.
très bien.
Ok. Alors moi, je ne vais pas différencier par rapport aux consoles ou quoi, mais il y a Street of Rage 2 qui m'a énormément marqué
Oui.
chez Sega parce que... Bah pareil, jouer en coop dessus et tout, c'était incroyable, les musiques étaient folles, c'était très
L'animation est
nerveux.
sympa aussi.
Ouais, vraiment, vraiment très beau, très nerveux. Le premier Sonic, bah comme tu dis, même si j'étais Nintendo, la première fois que j'ai vu Sonic, et quand t'as joué qu'à Mario, tu te dis putain, mais la vitesse,
Ah bah ouais.
c'était incroyable. Le premier Sonic sur Mega Drive était incroyable pour l'époque, vraiment. C'était. T'as beau aimer Nintendo, tu t'es obligé d'avouer que c'était un truc de fou, quoi. Clairement. Clairement.
Bah tu
Et...
sentais que ça avait passé un cap technique par rapport à la vitesse, quoi.
Ouais, tout à fait.
Alors qu'en fait, c'est
Et.
plein de petites astuces de programmation qui te permettent ça, mais
Oui, bien sûr, avec le scrolling qui fait qu'il était mieux maîtrisé chez Sega que du côté de Nintendo. Donc voilà, c'est...
D'ailleurs, je prends de l'avance sur le chapitre suivant. Petite anecdote sur le portage Master System, pour quand même donner l'impression de vitesse, il faisait dépasser Sonic de l'écran.
Oui.
Et ça permettait de dire, ouais, il va tellement vite qu'il passe en dehors de l'écran. Non,
Ouais.
c'est juste que la console, elle ne peut pas suivre.
Oui,
Mais
et du coup, ça te faisait une impression parce que c'était tableau par tableau et
ouais.
pas un scrolling horizontal parfait, en fait.
Si,
Non?
c'était quand même un scrolling, mais du
Ah
coup, le
ouais,
scrolling était beaucoup plus lent que sur Mega Drive.
ok.
Et pour donner cette sensation de vitesse, le Sonic allait plus vite que le scrolling et du coup
Ok.
sortait de l'écran.
Ok, d'accord. Bon, ben, ça, c'est bon à savoir.
C'était
Et...
l'astuce de développement de la Sonic Team
Ouais,
pour la
clairement.
Master System. Ouais.
Clairement. Et après, côté Disney, ça va être Aladdin, parce que vraiment, bah, comme je te disais, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et vraiment, quand j'y ai joué, et là, en vrai, aussi bien sur SNES que sur Mega Drive, hein, et sur Game Boy, je crois qu'il y en a eu un sur Game Boy, hein, il me semble aussi, où c'est juste le mec qui court et qui doit sauter les trous, etc. Non?
Alors, il y en a eu un sur Game Gear, c'est sûr. Ce n'est
Ok.
pas du tout le même. Il
Alors,
est
c'est.
dur, mon Dieu, qu'il est dur. Ou effectivement, c'est ce que tu décris. C'est juste du scrolling
Ah, mais c'est peut-être sur
horizontal.
Game Gear, alors. Hein.
Alors,
C'est.
peut-être que tu confonds, mais il est peut-être sorti sur Game Boy aussi, hein, je ne sais
Ouais,
pas.
ouais, ouais. Donc.
Mais oui, c'était du scrolling horizontal. Il fallait sauter par-dessus les obstacles, éviter les gouffres, des choses comme ça.
Ouais. Ok. Ok.
Donc.
Et.
Très, très différent et un peu
Ouais,
moins
pas
bien
terrible, quoi, pas
niveau.
terrible. Moins bon, mais ça me permettait d'y jouer. Et
Oui, voilà.
ouais, j'arrive pas à me rappeler si c'était moi qui l'avais sur Game Boy ou si c'était un pote qui l'avait sur Game Gear. En tout cas, voilà, ça a été des choses marquantes. Et pareil, le Castle of Illusion, la première fois que mon pote l'a lancé, c'était quand même assez féerique aussi, quoi. Vraiment, l'univers de voir Mickey comme ça, tout le monde animé de Mickey sur un jeu, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment cool.
Et alors, fun fact sur les jeux Disney, notamment je fais le parallèle entre Quackshot et Mickey, donc
Oui.
que ce soit Castle of Illusion ou World of Illusion, tu retrouves des animations qui sont très similaires, en gros ils ont juste changé le sprite, et des sonorités qui sont les mêmes. Quand Donald récupère des objets, ça fait une espèce de gloum, 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 gloum. Et ben, il y a
Ouais.
le même son, exactement le même son dans Mickey. Alors, je ne sais pas lequel est sorti en premier. Bah, si, on va le savoir, je l'ai marqué.
Oui, tu l'as mis dans le résumé.
Ouais, Quackshot 91 et Castle of Illusion 90. Donc, c'est peut-être Castle of Illusion qui a initié le pas et ça a
Ouais.
été récupéré dans
Mais
Quackshot.
c'était assez fréquent à l'époque hein, de
Oui, bien
réutiliser
sûr,
des.
ouais.
Il
Mais
y
avant
a,
ça,
y a eu,
non.
même eu des jeux qui étaient les mêmes et juste avec le sprite du personnage changé, quoi. Hein. Bah, il y a eu les fameux contrats Probotector suivant la région. Il y a eu pas mal de choses comme ça où c'était juste le sprite qui changeait. C'était. Voilà.
Il y a eu des. Alors, c'est beaucoup sur console Nintendo, sur les Game Boy notamment. Il y a un jeu qui a été un portage, et en fait, il est juste sorti en quatre versions différentes avec des noms différents. Donc, en gros, on te vendait ça comme des jeux différents. C'était
Ouais.
le même, juste le personnage qui changeait.
Ouais, non, mais c'est sûr, il y a eu des spécialistes. Il y a eu des spécialistes.
Ouais.
Et du coup, ouais, alors en anecdote, est-ce que tu as des choses en particulier sur. Alors,
Je vais juste finir sur les jeux
oui,
Disney.
vas-y, vas-y, vas-y.
J'avais parlé du Roi Lion tout à l'heure, que j'avais très très bien aimé, moins que Quackshot, mais il
Oui.
avait l'avantage aussi d'être sur Game Gear, et donc je l'avais sur Game Gear aussi, donc très très sympa. J'ai pas fini aussi sur les jeux sur Game Gear, parce qu'on a parlé de la Game Gear, Desert Track étant sur le 2 aussi. Il y
Oui.
avait des jeux, bon, Columns, je crois qu'il était sorti sur Mega Drive aussi, mais c'était pas du tout la même version que Game Gear. La
Ouais.
version Game Gear de Columns, c'était vraiment mais Tetris
Oui,
en
non, mais
couleur.
c'est clair.
C'était le même principe. Enfin, pas tout à fait non plus, en fait. Le principe, c'est de faire des lignes et puis de les supprimer au fur et à mesure, et gagner des points et arriver au dernier niveau. Mais sur Game Gear, c'était très différent. C'est il fallait faire des lignes de trois éléments, même couleur, même forme, en verticale, en horizontale, en diagonale. Trois ou plus. À partir de trois, ça disait c'est bon, on a une ligne, ça la validait, elle disparaissait et ça faisait tomber les éléments du dessus à la place de ceux qu'on venait de faire disparaître. Donc
Ouais.
c'était pas ligne par ligne en horizontale, c'était trois ou plus cumulés qui se suivaient. Voilà. Et ça pouvait être dans plusieurs directions. Si on en avait trois en horizontale, trois en
Ouais, un peu
verticale,
comme un
les six
morpion en
disparaissaient.
fait.
Ouais,
Donc.
ça faisait disparaître les cinq, les six. Et du coup, bah, ça décalait tout. Donc il y avait un côté stratégique encore différent, mais c'était du fun aussi. On pouvait changer les couleurs, on pouvait en rajouter. Donc de base, je crois que le jeu de base, il est à quatre couleurs. Puis on pouvait en mettre une cinquième et une sixième, ce qui renforçait la difficulté. On pouvait mettre soit des formes géométriques, soit des fruits, soit. Voilà, on pouvait changer aussi la tronche des sprites. Donc c'était vraiment très sympa, assez complet. Donc un très très bon jeu sur la Game Gear. Et puis, moi, j'ai des souvenirs de Batman et de Spider-Man sur la Game Gear, notamment un Spider-Man. Alors, je ne saurais pas dire lequel, parce qu'il y en a eu deux ou trois qui sont sortis sur la Game Gear,
Ouais.
qui était incroyable. Enfin, après, qui était incroyable. Je ne sais pas si j'y rejoue aujourd'hui, je trouverais peut-être ça nul. Mais à l'époque, en tout cas, ça m'avait captivé. J'avais passé pas mal de temps aussi à tisser mes toiles, me pendre au bâtiment avec ma. Bah, c'était basique hein, comme animation, mais je sais pas, on avait vraiment l'impression d'avoir Spider-Man entre les mains. C'était très sympa aussi.
Ok, mais je l'ai pas connu celui-là, donc faudrait que pareil, faudrait, sur Game Gear, vraiment, moi, c'est vraiment resté. Donc ouais, j'ai souvenir du Roi Lion, j'ai souvenir de Road Rush, j'ai souvenir de Columns, bien sûr, des Sonic. Après, hormis ça, je pense pas avoir joué à beaucoup beaucoup de jeux parce que bah tu vois, j'avais qu'un seul pote en fait quand avait une. Et comme
Avec
tu
la Switch,
disais
bah
quoi,
tout seul.
il a dû avoir un jeu par an et puis bah au bout de 3 4 ans c'était déjà presque démodé quoi. Et c'est vrai que Nintendo avait il y a eu la Pokémon qui a dû sortir, je pense, tu vois, dans les 91 ou 12 chez nous, je pense, dans ces eaux-là, et pareil, qui a tout ravagé, quoi. Donc, en fait, au final, la Game Gear, je pense que vraiment, elle a eu 3-4 ans de belles activités, et après, c'était mort, quoi. Donc.
Il y a des jeux moi, que j'ai connus sur le tard, mais qui sont très bons, qu'il faudrait que je prenne le temps de faire en entier. Il y a notamment un RPG qui a l'air vraiment pas mal sur la Game Gear, c'est Defender of the Oasis,
Ouais.
qui est un des rares RPG de la Game Gear, et qui a l'air vraiment très très bien.
Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir dessus, donc voilà. Donc ouais, par rapport aux anecdotes, est-ce que tu as des choses, toi, alors déjà à titre perso, peut-être par rapport à ces consoles ou à ces jeux?
Alors, anecdote perso, la console donc, qui est dans mon décor, que je me sers régulièrement en stream, c'est la mienne de quand j'étais petit. Mais ça n'a pas
Oh.
toujours été la mienne.
Ok.
C'est qu'en fait, en grandissant, bon, déjà j'ai eu un frère quand mes parents se sont séparés, que ma mère s'est mise avec mon beau-père. Donc, il y a mon petit frère qui est arrivé, donc on a 8 ans d'écart.
Ok.
Moi, j'ai eu dans les années qui ont suivi la PlayStation. Et puis, bah, mon frangin grandissant, moi, j'avais plus l'utilité de ma Mega Drive. Je lui dis, bah, écoute, je te la donne avec tous les jeux. Voilà, c'est ton héritage. Tu as ma Mega Drive avec les jeux. J'avais même le joystick, un peu le truc
Ouais,
d'avion, là,
je vois.
pour jouer à des jeux type Afterburner ou des trucs comme
Ouais.
ça. Rambo aussi, j'avais Rambo 3 qui pouvait se jouer au joystick, parce qu'il y avait un viseur. On pouvait y jouer avec le pistolet de la Mega Drive, oui, il y en avait un,
Ouais.
mais on pouvait y jouer avec la croix directionnelle et avec le joystick, justement, type manche d'avion. Et ben, c'était plutôt pas mal de jouer à Rambo là-dessus. Bon, voilà. Donc, je lui ai filé. Et puis, ben, c'est il y a quelques années, quand j'ai recommencé à faire ma collection, je lui ai demandé, j'ai pris le culot de lui demander, je lui ai dit, écoute, ma Mega Drive. Elle me manque. Elle me manque terriblement. Est-ce que je te l'ai donnée? Donc, si tu me dis non, je te la laisse. Il n'y a pas de souci. Je m'en trouverai une autre. Mais si vraiment, toi, tu n'as pas la collectionnite, que ça t'intéresse pas de la garder, je la récupérerai bien. Mais dis franchement, vas-y, prends-la. Moi, ça va me prendre plus de place que ce que ça va m'apporter en plaisir. Prends-la. Je te la rétrocède avec plaisir. Donc, j'ai récupéré, il y a 2 ou 3 ans, ma Mega Drive.
C'est trop bien ça. C'est trop
Ouais,
bien.
et franchement, mon frangin, il assure parce que il y a 2 ans ou 3 ans, quand j'ai commencé à refaire ma collection, je cherchais à refaire toutes mes consoles, à reposséder toutes les consoles que j'avais eues ou jouées dans les années précédentes, quoi, de petit jusqu'à maintenant.
Ouais.
Et un Noël, il m'a offert une Wii qu'il a hackée lui-même avec une clé USB, plein de jeux dessus et tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. Donc il a pris le temps d'en trouver une, de la hacker. C'est trop bien, quoi. Mon frangin, il assure. Voilà. Bon,
Ouais.
après, je lui ai fait des beaux cadeaux, je pourrais vous montrer en fin
Non,
de
mais
podcast.
oui, moi, bah pareil, moi, ma NES, c'est la. Alors, c'est pas celle que j'ai eue, ma première NES, mais c'est une que j'ai eue. Parce que j'en ai eu deux. J'avais déjà expliqué le pourquoi du comment, donc je vais pas le redire là en podcast. Et j'ai des jeux Game Boy et des jeux NES qui sont les miens quoi d'origine. Donc je trouve ça trop bien quoi. Je trouve ça trop bien. Donc quand tu peux garder des choses, c'est le top. C'est le top. Et sinon donc en anecdote, donc j'ai souvenir justement, on parlait tu sais de pouvoir mettre Alex Kidd sans avoir la cartouche. Ça m'a quand t'es gamin, en fait, moi j'avais la NES avec Mario Duck Hunt, j'ai eu le pack. Il y avait ce plaisir de mettre la cartouche, mais quand je suis allé chez un pote et qu'il m'a dit, regarde, mon frère, il a une Master System et je le vois démarrer la console sans jeu et que ça démarre sur un jeu et ça m'avait bluffé de fou et j'avais dit, mais comment et, en fait, quand t'es gamin, tu te demandes comment ça peut tenir là-dedans, en fait.
Ah ouais, comment ça marche?
Ouais, comment ça marche? Et je m'étais dit, ouais, putain, c'est fou. Et après, j'ai une autre anecdote sur la Mega Drive et donc les 16 bits en général. Donc, c'est ce que j'avais expliqué. J'ai pas eu de console 16 bits. Et j'avais un pote qui avait le Mega CD et qui lisait les CD, donc les fameux CD de musique à l'époque. Et donc, comme j'étais jaloux, il y a la Mega CD 32 qui était sortie. En disant, on est la première console CD 32 bits au monde. Et c'était la période de ma communion. Et j'ai mis tout l'argent. Et je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'était 2000 francs ou 2500 francs.
C'est
C'était
horrible,
une
non, faire un
somme
Amiga-CD.
ouais, vraiment colossale. Et j'ai dit, putain, je vais enfin pouvoir jouer à des jeux 32 bits CD, écouter mes CD. Et au final, elle m'a servi quasiment que à écouter des CD. Puisque la ludothèque était vraiment pourrie, il y avait vraiment pas grand-chose.
Rien.
La plupart du temps, c'était des jeux en fait des vieux jeux Amstrad ou Commodore qui avaient été portés pas Amstrad, Amiga, pardon, ou Commodore qui avaient été portés dessus. Et vraiment, il y avait pas grand-chose. Donc, elle m'a servi de lecteur CD à 2500 balles. Ça faisait cher le lecteur CD, quoi. Mais
Pour le coup, une PlayStation aurait été beaucoup plus
ah ouais.
abordable et
Bah, quand...
ouais.
Mais elle est sortie avant la PlayStation. Et mes potes qui avaient... Donc, moi, j'ai attendu de pas avoir de 16 bits pour pouvoir me payer ça. Et quand ils sont passés... Donc, déjà, ils avaient la SNES. C'était limite aussi bien que ce que j'avais. Et après, ils sont passés à la PlayStation. Et là, j'étais vert de rage, quoi. Je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ce move-là? Mais c'est comme ça. Donc, ouais, j'ai un souvenir d'avoir joué beaucoup chez des potes et d'avoir demandé à mes parents d'aller beaucoup chez des potes pour pouvoir aller jouer au SNES et Mega Drive à l'époque, parce que bah du coup, moi, j'avais mon Amiga et qui était vraiment un peu nul.
C'est
Donc
le problème à cette époque des consoles un peu, j'allais dire exotiques, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui ont été moins populaires, c'est que du coup, comme elles étaient moins populaires, elles étaient moins vendues, et comme le parc installé était beaucoup plus petit, bah, les éditeurs, ils
ouais.
peinaient à sortir des jeux dessus, donc forcément, la ludothèque, elle ne suivait pas, quoi.
Ouais.
Pourtant, il y a eu des consoles incroyables qui auraient mérité le succès qu'a eu la Game Gear. Je pense à la Lynx. La
Oui.
Lynx, c'était une console portable, rétro-éclairée, avec un néon haute tension, comme la Game Gear, ça on en parlera côté réparation. En plus, elle avait l'avantage incroyable de pouvoir jouer à l'horizontale, mais aussi à la verticale. On tourne la console et ça s'adaptait. Donc, mais bon, voilà,
Ouais,
encore une fois,
et il y a eu des
terminé, hein.
consoles qui sont pas sorties par chez nous. Il y a eu la PC Engine, il y a eu les WonderSwan classiques ou Color qui sont
Ouais.
incroyables aussi, hein.
Tellement
Et...
incroyable les WonderSwan. J'en ai eu une entre les mains que j'ai modée avec un écran IPS. C'était une console incroyable la WonderSwan.
Ouais,
Elle
donc.
concurrençait, mais haut la main, la Game Boy. Elle avait une seule pile double A. Qui tenait trois fois plus que la Game Boy avec ses quatre piles, c'était incroyable, incroyable. Ils avaient
Non,
fait
mais
un
c'est sûr.
boulot sur l'économie d'énergie, c'était fou.
C'est sûr. Donc ouais, il y a eu plein de choses. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir cet Amiga, mais ouais, ça m'a permis aussi de, bah, tu vois, heureusement qu'on avait des potes, tu vois, qui avaient un peu toutes les types de consoles, et ça nous permettait du coup de pouvoir jouer. Mais j'ai souvenir que je demandais souvent à sortir chez des potes. À cette époque-là, parce que j'avais pas les bonnes consoles, quoi, voilà.
Alors après, en anecdote, mais c'est de manière plus globale, Sega, quand même, à cette époque-là, les années 90, ils étaient quand même grand fans des accessoires à profusion, quoi.
Ouais.
On parlait de la Mega Drive avec le Mega CD, le 32X. Il suffisait qu'on rajoute un Game Genie dessus, donc qui permettait de mettre les codes de jeu et tout
Ouais.
ça. Et on avait ce qui s'appelait et qui s'appelle encore la Sega Tower. Donc ça faisait un truc énorme comme ça, là. Où on avait donc différentes couches, différentes piles d'accessoires sur la console. Ça faisait un truc incroyable, horrible au final, moche,
Ouais.
encombrant, pour une ludothèque finalement qui n'était pas incroyable sur ses accessoires supplémentaires, quoi. Bon, voilà.
Mais oui,
Après, il y a
c'était...
eu des choses qui étaient intéressantes, mais ça, c'est plutôt des éditeurs qui ont sorti des cartouches. Je pense à Micro Machines, les consoles, donc que ce soit
Ah
la
bah,
Mega
alors
Drive,
maintenant que tu
même
le dis, sur Game Gear, il y a eu Micro Machines, que j'ai beaucoup pensé aussi. Ouais.
Oui. Et donc sur la Mega Drive, mais je crois qu'ils ont fait pareil sur la Super NES, c'était des consoles qui avaient deux ports manettes. Mais on pouvait quand même jouer à Micro Machines à 4. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, moi j'ai souvenir de ça sur la Mega Drive, ils avaient intégré à la cartouche deux ports manettes supplémentaires. Donc on branchait deux manettes sur la console, deux manettes sur la cartouche. Après, sur PlayStation est sorti le multitap, mais là, à l'époque, l'éditeur a dit, nous, on va faire quelque chose de différent, on va intégrer les ports manettes directement dans la cartouche, donc la cartouche était plus haute aussi, et on branchait les manettes sur la cartouche directement. Incroyable.
Et alors, je sais pas sur Game Gear si on pouvait pas jouer avec les boutons et l'autre la croix directionnelle.
Ben, si je dis pas de conneries, mais il faudrait que je vérifie, il me semble que la Game Gear, elle avait l'équivalent du câble Link de la Game Boy.
Ah, ou c'était un... Ouais, mais. Bon, alors, j'ai plus en tête. J'ai plus en tête. Mais
Il me semble. Parce
j'ai
qu'elle a,
souvenir
elle a un
d'avoir joué.
port, elle a un port sur le dessous qui est caché. Attends, parce que des Game Gear, j'en ai tout autour du ventre. Hop, elle a un port extension sur le dessus.
Oui, je vois bien, ouais, ok.
Et ce port, je me demande si dedans, on ne pouvait pas brancher justement l'équivalent d'un câble Link.
Ah, peut-être, peut-être. Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir joué à deux à Micro Machines et je suis quasiment sûr que c'était sur Game Gear. Donc,
C'est
quand
ça,
tu m'en
c'est
as
tout
parlé,
à
ça m'a
fait
fait
même.
tilt. J'ai dit, putain, mais oui, c'est vrai que c'était incroyable ce
Il y
jeu.
avait pas mal de jeux où ils exploitaient la croix directionnelle d'un côté et les boutons de l'autre pour les deux joueurs, quoi. Comme c'était des jeux où, grosso modo, ça accélérait tout seul, il n'y avait besoin que de faire la direction.
Ouais, exactement. Donc, non, ça c'est bah tu vois, c'est intéressant parce que ça fait partie des anecdotes. Après, sur les jeux en soi, moi j'ai pas trop d'anecdotes parce que bah, quoi, au final, j'y ai pas joué chez moi, quoi, tu vois, c'était des jeux que je
Eh bien
jouais
sûr.
chez d'autres
Ah,
alors hormis le
je vais finir du coup sur les accessoires, parce qu'on a
Ouais,
parlé des
vas-y,
accessoires
vas-y,
pour
vas-y.
la Mega Drive, mais il y avait des accessoires aussi sur la Game Gear. Et sur la Game Gear
Oui.
était sorti, donc on a parlé tout à l'heure de l'adaptateur Master System, donc était incroyable parce qu'à l'époque c'était la seule console portable qui permettait de jouer des jeux de console de salon. Donc c'était très bien. Et en plus, après, ils ont sorti une autre console qui était la Nomad, mais ça, c'est une Mega Drive
Elle est
portable.
restée très obscure. Ouais, clairement.
Voilà. Ils avaient sorti aussi un tuner
Oui,
télé.
TV. Ouais.
Alors, en Europe, ça marchait pas parce que c'était adapté aux fréquences du Japon, mais les Japonais, eux, pouvaient regarder la télé sur leur Game Gear.
Ouais.
C'était incroyable quand même. Ils captaient les chaînes de télé sur la Game Gear. Ça en faisait une télé portable. Et je me demande si on ne pouvait pas capter aussi la radio avec ce récepteur FM. Donc c'était quand même incroyable. Il y a eu comme c'était une console, ça on va en reparler sur la partie réparation, puis je pense qu'on clôturera là-dessus.
Ouais.
Une console qui consommait énormément de piles, je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, bah, ils ont sorti aussi tout un lot d'accessoires avec des batteries. Alors c'était certainement du nickel-cadmium à l'époque, mais des batteries rechargeables qu'on clipsait à l'arrière de la console. Ça faisait comme une extension de manette supplémentaire, donc ça grossissait la console. Ils avaient sorti des accessoires officiels où c'était en fait une batterie avec un câble qui se branchait sur la prise secteur de la console.
Ouais.
Bon, je parle pas des loupes pour grossir l'écran et avoir l'impression de jouer sur une console plus grosse, mais c'est pareil, on pouvait avoir la méga Game Gear énorme avec tous les accessoires pluggés dessus. C'était un peu la folie chez Sega de faire des accessoires en tout genre et
Ouais,
en tout genre.
ils ont eu un peu cette crise d'accessoires aigus qui est certainement due d'ailleurs en partie à leur perte. Hein,
Ça a pesé dans la balance. Alors, après, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont causé la perte de Sega. Le fait que je pense qu'ils ont été un peu en avance sur leur temps quand ils ont sorti la Saturne. En fait, la Saturne, elle était trop en avance sur leur temps et ils ont fait l'erreur de sortir trop d'accessoires avant de sortir la console parce qu'ils voulaient prolonger la durée de vie de la Mega Drive. Bon,
Alors
mais
après,
la Saturne était une console
pour être
incroyable.
plus précis là-dessus, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà la distorsion entre Sega US et Sega Japon. Sega Japon qui, eux, croyaient à la Saturn et Sega US qui voulait continuer à rentabiliser la Mega Drive qui était sortie plus tard, du coup, chez eux.
Elle est sortie bien plus tard, 2 ou 3 ans plus tard.
Et qui, eux, croyaient au Mega CD. Et donc, en fait, ils se sont fait quasiment concurrence sur les territoires. Et la Saturn est pareil, est sortie en retard aussi aux États-Unis parce qu'eux voulaient prolonger la durée de vie de la Mega Drive. Donc, ça a été un peu compliqué aussi en interne. Il y a eu, voilà, après, on fera pas l'histoire, mais
Non, mais c'est plein de petits éléments qui ont
oui.
fait qu'on est arrivé à cette situation. Mais moi, je reste persuadé que la Saturn, elle était un peu trop en avance sur son temps. C'était la première console qui permettait de jouer en réseau quand même, hein, en réseau Internet, hein, pas en réseau local, avec des jeux incroyables aussi. Il y avait Panzer Dragoon qui était très bien, Knights
Oui.
Into Dreams qui était très bien, qui était un peu le Sonic de la Saturn. Mais ça a pas pris, voilà. Ouais,
Il y a
je
eu
pense
Sega Rally, il y a eu des portages arcade qui étaient incroyables sur la Saturn, donc
bien sûr, bien sûr.
mais
Et après, comme elle a pas marché, très vite ils ont sorti la Dreamcast, qui était une console fantastique aussi. Bah c'était aussi l'arcade à la maison, hein, la Dreamcast, hein.
Ah oui.
D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui l'émulateur Dreamcast exactement le même que l'émulateur arcade de cette génération.
Ouais, bien sûr, bien
Et les
sûr.
jeux, c'était les
C'était
mêmes. Voilà.
exactement le même système et en avance avec les quatre ports manettes,
Ouais,
avec
bien
le
sûr.
VMU qui était une innovation incroyable, mais
Ouais.
qui était malheureusement dans l'esprit des gens, c'était trop tard. En fait, PlayStation avait tout quoi, Sony avait tout rasé avec PlayStation quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc
Et quelque part, non seulement c'était trop tard, et en plus, le mal était déjà fait.
oui.
Ils avaient déjà un pied dans la tombe. Et du
Ouais, bien
coup,
sûr.
ben,
Bienvenue
les
pour la
gens,
première fois,
ah ouais,
Trapier.
Sega, oh, on a vu ce que ça donnait la Saturne, est-ce qu'on part sur la Dreamcast? Et pourtant, il y a eu des jeux incroyables. Hein. Donc, des jeux portés de l'arcade. Je pense à House of the Dead 2, qui était incroyable. Les Sonic aussi, hein, Sonic
Attends,
c'était Adventure.
aventure, ouais.
Très très bien. Pour la
Ouais.
passage à la 3D, qui était très bien, Jet Set Radio, parfait aussi sur voilà, enfin
Crazy
des
Taxi, il y a eu plein de. Ouais, bien sûr.
Et il y a des jeux pourtant qui sont sortis sur plusieurs supports. Je pense à Crazy Taxi. Crazy Taxi, il est sorti sur Dreamcast et sur PS2. Il
Ouais.
était tellement mieux sur Dreamcast.
Ah, ouais, clairement. Clairement.
Et on a
Mais
eu Crazy
c'était le
Taxi,
portage.
après Dreamcast ou
C'était
Arcade.
l'identique de l'arcade hein, sur
Ah oui.
la Dreamcast.
Et quand on parle de Crazy Taxi, très peu, je pense que même pas beaucoup savent qu'il est sorti sur PS2 aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc. Et après, alors, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, mais c'est vrai qu'on parle justement de Sega et Disney. Je pense qu'en plus, ils savaient faire les choses, quoi. Je trouve que les jeux Disney ont été très très bien chez Sega. Et il y avait une patte. Et c'est dommage de plus pouvoir retrouver ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a un jeu qui me revient, et tant pis, je refais le parallèle. Il y a un jeu qui me revient que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est
Ah oui.
Moonwalker, pardon, Michael Jackson.
Ouais.
Incroyable. On avait les musiques de Billie Jean, de Bad, dans le jeu vidéo, c'était incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, Moonwalker, c'est un film
Oui.
de Michael Jackson avec Michael Jackson. Un film complètement barré, hein. Il n'est même pas extraordinaire le film. Mais
Non.
par contre, bah, ça reprend beaucoup, beaucoup de ses chansons. Et le jeu, bah, c'est l'histoire du film. Et donc, on parcourt les niveaux avec ces musiques incroyables. Et justement, aujourd'hui, avec le modding, les patchs de jeu et tout ça, on peut jouer, c'est pas officiel, mais on peut jouer à Moonwalker avec les musiques en qualité CD issues des albums de Michael Jackson.
Ouais, et
Et
c'est
ça, c'est
vrai.
génial.
C'est vrai.
Ça, c'est
Non,
génial.
il y a des choses, il y avait quand même des choses incroyables chez Sega,
Ouais.
faut pas se mentir. Heureusement, ils continuent malgré tout d'être éditeurs et de proposer des choses. Mais c'est vrai que ça s'est un peu fini en même temps. Tu vois, la partie Disney, je trouve que sur la 3D, hormis Hercule, peut-être sur PS1, qui
Oui,
était.
y a eu un Donald aussi qui était pas mauvais, mais qui était pas incroyable non plus. Donald Duck, ah, j'ai plus le nom, qui est sorti sur plein de supports, notamment sur la Dreamcast.
Ok.
Quack Attack, un truc comme ça.
Ah, ça se peut. Ouais, je sais plus.
Je crois que c'est
Quiz.
Quack Attack, qui est sorti, il est sorti sur console portable, il est sorti sur la Dreamcast, il est sorti, je ne sais pas s'il n'est pas sorti sur PS2 aussi,
Ouais.
mais voilà, c'était pas de la veine de Quackshot ou des World of Illusion, etc. Il y en a eu très peu après derrière.
Non, mais
Il y en a
c'est
eu très peu.
clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est quoi? Voilà, c'est vraiment une génération, je trouve, où tout s'est. Quoi, tu vois, la partie Disney a disparu un petit peu des jeux vidéo. Sega a disparu des jeux vidéo, en tout cas en termes hardware. Y a eu. Ça a été le changement. Et on est passé plutôt sur des trucs plus, tu vois, plus mûrs, plus matures.
Oui.
Et Sony a bien pris ce virage-là, en fait, de jeux un peu plus adultes.
Oui. Alors, en fait, ces gars, ils avaient déjà un peu commencé avec la Mega Drive, hein,
Ouais.
les State of Rage et tout ça, qui étaient des jeux quand même un peu pour adultes, hein.
Oui, bien sûr.
Et puis, ils ont continué sur la Saturn, avec des jeux comme Panzer Dragoon, qui étaient quand même aussi
Ouais.
un peu faits pour des adultes. Et après, bah, sur la Dreamcast, avec les Shenmue, les Heroes of the Dead. c'était plus pour les gosses, quoi. C'est
Ouais.
fini cette époque. Et ils ont toujours, en fait, ces gars, on a l'impression que, je pense que c'est assez vrai, qu'ils ont évolué avec leur public.
Oui.
C'est-à-dire que les gamins qui ont connu la Master System, la Mega Drive, ont grandi. Resident Evil, oui, aussi, mais qui était sorti sur PlayStation et qui est plus connu, je pense, sur PlayStation que sur les autres. Et ils ont grandi aussi avec les joueurs. Et quand les joueurs étaient ados, ils avaient des jeux d'ados. Quand les joueurs sont devenus adultes, ils ont eu des jeux d'adultes. Et c'est un peu plus clivant, peut-être, mais au moins, ils ont suivi leur public. Nintendo, ils sont toujours restés, on va dire, tout public.
Oui.
Et principalement, attention, avec des choses accessibles aux plus jeunes.
Ouais, alors même si Sonic aujourd'hui est connu, tu vois, mon fils qui a 11 ans connaît Sonic, on a été voir tous les deux films au cinéma.
Oui, parce que Sonic, Sega ayant arrêté de faire des consoles, ils ont continué à faire des jeux Sonic sur
Ouais.
différents supports. Mais je vais être assez honnête et même assez dur avec Sonic et la Sonic Team. Franchement, Sonic 1, 2, 3, et pour moi, ça s'arrête là, quoi. Alors, le Adventure était très bien sur Dreamcast, mais moi, malheureusement, comme je n'ai pas eu la Dreamcast, je n'y ai pas joué.
Ouais.
Mais j'en garde le peu que j'ai vu, ça m'a pas l'air d'être si incroyable que ça, même s'il a beaucoup plu. Et tout ce qu'ils ont fait derrière, c'était des pâles copies ou des vaines suites de Sonic 1, 2 et 3, en fait, hein.
Ouais, et puis ils ont sorti 20 000 collections, tu vois,
Alors,
de
collection, remake,
les
machin,
classiques, les machins,
génération,
les ouais.
origin. J'ai vraiment l'impression de jouer au même jeu, mais sans ce charme de l'époque. Et ça me
Ouais, je
dérange.
comprends. Je comprends, je comprends. Et du coup, on va finir sur. On avait noté les actus, mais plutôt ce que tu fais toi sur ta chaîne, peut-être pour expliquer justement un peu ça va finir de compléter, on va dire, ta
Rapide
passion,
bien d'un
notamment pour
mot.
la Game Gear, en fait.
Ouais.
Donc.
Ouais. Je vais juste rajouter une anecdote,
Vas-y, vas-y.
même si c'est vrai sur d'autres supports, particulièrement sur Mega Drive, je trouve que ces dernières années, il y a beaucoup de développement et de jeux qui sortent
Oui,
encore aujourd'hui
avec des
sur Mega
Homebrew.
Drive.
Ouais.
Il y a eu Demon of Astarborg
Ouais, Paprium.
et sa suite qui arrive ou qui est déjà sortie, Astro Bros. Il y a eu Paprium. Il y
Ouais.
a eu. Il y a... Mais vraiment, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a, je sais pas, sur les 4-5 dernières années, il y en a genre une dizaine qui sont sortis
Il y a
sur Mega Drive. Sur
celui
Mega
de Cursed de mince, comment il
Drive.
s'appelle?
Crusader Kings. Non.
Non, 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 Cursed, mince. Ah ouais, c'est un gars de chez moi en
Night.
plus.
Night
Cursed Knight, non?
Un truc comme ça, ouais. Ouais.
Ouais. Non, oui, il y a eu beaucoup de homebrew dessus, et ça rappelle que c'est une très très
Enfin,
belle
c'est pas des
console.
homebrew, c'est des jeux qui sont
Quoi, des
sortis sur
jeux? Oui,
Homebrew.
des jeux, ouais. Des jeux
Ouais.
qui sortent.
Et autant il y en a, on peut trouver les ROM et machin, mais je pense à Paprium, bon, qui a fait pas mal de bruit, mais qui en fait apparemment est pas si extraordinaire que ça. Le jeu, on peut même pas dumper la ROM parce qu'il y a des puces spécifiques à l'intérieur de la cartouche qu'on peut pas émuler ou avec un Everdrive, donc c'est ce que j'ai moi sur ma Mega Drive, ça marche pas.
Mais
Il manque les puces dans cette cartouche spécifique de Paprium. Voilà.
ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait.
Voilà, c'était l'anecdote supplémentaire là-dessus.
Non, mais
Et donc,
t'as
pour
bien fait, c'est
parler
important.
de ce que je fais donc, sur ma chaîne, donc, moi, je vous ai
Oui.
dit, je fais pas mal de réparations, principalement sur des consoles rétro, mais pas que, hein. J'ai fait de la PS5, je fais de la PS4 régulièrement. Mais je suis vraiment passionné par la réparation de Game Gear. J'en ai réparé, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je dois en avoir réparé une trentaine, je pense. Je stream depuis 2 ans et demi, hein, donc voilà, grosso modo, j'en fais une par mois, quoi.
Ouais.
J'adore ces consoles. À la fois, elles sont très accessibles à la réparation, parce que majorité des problèmes, c'est des changements de condensateur et les consoles repartent comme il y a 30 ans.
Ouais.
Malheureusement, de plus en plus, surtout cette année-là, de plus en plus, les consoles ont des écrans qui sont défectueux. Alors, certains sont réparables, d'autres non, c'est trop abîmé ou les pixels sont morts. Et donc là, il faut changer l'écran. Changer l'écran par un écran d'origine, autant vous dire que ça vaut pas le coup, parce que l'écran d'origine, même fonctionnel, il a 30 ans et tôt ou tard, il va lâcher.
Oui.
Et puis en plus, aujourd'hui, il y a des mods qui existent, donc pour changer l'écran par un écran moderne, nouvelle génération, et surtout bah, rétroéclairé avec un contraste bien meilleur que celui d'origine, une luminosité qui est bien plus uniforme que ce pauvre néon haute tension qu'il y avait à l'intérieur. Et du
Mais
coup, bah, vu qu'on supprime ce fameux néon haute tension qui est à l'intérieur, et bah, on supprime beaucoup de la consommation électrique de la console. Et du coup, on peut multiplier par 3, voire 4 l'autonomie de la console en remplaçant les écrans d'origine. Par ces écrans LCD modernes. Alors, on en trouve sur les sites chinois type AliExpress, je pense principalement
oui.
à ça. C'est des pâles copies, alors c'est, enfin, non, pâles copies, non, je ne vais pas dire ça. C'est des copies plutôt bien réalisées des écrans McWheel qui sont sortis il y a déjà quelques années et qui sont assez chers, hein, ça coûte plus de 100 euros les écrans McWheel. Quand je dis écran, c'est écran plus la carte de contrôle de l'écran, hein, il faut les deux. Et les versions chinoises sont dans les 60 euros. Il y a une version IPS, pour le coup, qui se trouve que sur site chinois, donc AliExpress.
OK.
Donc là, ça permet des angles de vision très très ouverts. Et moi, je suis assez fan des écrans de chez RetroKai, parce que c'est un Français qui conçoit ses PCB en France, qui les assemble en France et qui les expédie. Ils sont même moins chers que le matériel chinois. Pour de la conception et fabrication française, c'est quand même beau à
Ouais, c'est pas
souligner.
mal. Ouais,
Ouais,
clairement.
et puis ils sont faciles à installer, ils ont moins de composants à enlever dans la console d'origine que les écrans chinois. Parce que oui, comme on enlève la partie haute tension, eh ben, il faut supprimer aussi le circuit qui génère la haute tension, autrement ça sert à rien. Donc
Ouais.
on enlève aussi quelques composants pour couper l'alimentation du circuit haute tension et donc ne pas générer de haute tension et donc bah, économiser un peu de consommation, pour pas dire beaucoup.
Ouais.
Donc ça, c'est un des modes qui est très très sympa à faire. Et donc les écrans RetroKai, ils sont relativement simples à installer. En plus, il y a un petit guide de montage, on le pose, on soude de beaux endroits. Ça reste assez accessible comme modding. Donc c'est très sympa. Et puis il y a d'autres modes encore. La Game Gear est beaucoup 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 travaillée. Et ça peut. Donc il y a des modes batterie pour mettre la console sur batterie.
Oui.
On trouve ben, RetroKai en fait des cartes Alim et des cartes son toutes neuves avec des PCB tout neufs, tout refait. Donc avec des condensateurs céramiques, donc avec une durée de vie bien plus grande que les condensateurs d'origine qui sont des condensateurs chimiques. Et
Mais il
puis
est
ça peut
cool.
aller jusqu'à complètement remplacer la carte mère. Il y a une entité qui a recréé la carte mère de la Game Gear, qui propose donc un PCB avec déjà des condensateurs, des résistances soudées dessus. Par
Ouais.
contre, il faut juste prendre le processeur et donc les puces processeur mémoire de la Game Gear et les ressouder sur ce PCB. Mais quand on a une Game Gear qui est complètement HS parce que la carte mère est complètement bouffée par l'oxydation, on récupère le processeur, on le ressoude sur cette carte mère refaite et on repart avec une console refaite à neuf. Il
Ouais,
y a
c'est fou.
des coques transparentes à l'effigie de la Master System. Bref, il y a
À
plein de
l'effigie de
coques
la
qui existent
Dreamcast,
sur le marché.
j'en ai vu aussi.
Voilà, on peut mettre des boutons transparents rétroéclairés. Enfin, on peut vraiment aller très très loin dans le modding de la Game Gear. Donc, je trouve que c'est une console qui est très intéressante à travailler. Et comme je disais, ben, elle reste accessible parce que changer 20 condensateurs sur la console, on dessoude, on ressoude, c'est assez accessible. Il n'y a pas besoin de grosses compétences. Donc, à la fois, c'est accessible et à la fois, on peut aller très loin. Donc, ça me plaît beaucoup. Voilà.
Ouais. Hormis que ça sent le poisson quand tu recaps, c'est le
Ah bah
seul
ça oui,
défaut.
quand on change les condensateurs, ça sent un peu le poisson, c'est parce que les condensateurs chimiques ont fini par perdre leur... Ils ont fui en fait, et ils ont l'acide qui est à l'intérieur a coulé, et quand on chauffe, ça pue le poisson.
Ouais, clairement.
Ouais.
Clairement, clairement.
C'est
Ok.
vrai que atelier de réparation slash poissonnerie quand on fait des réparations de Game Gear.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Voilà, donc des
Et...
Game Gear, j'en ai 6 à faire ici, j'en ai 3 en vente là-haut. J'ai la mienne qui est dans mon décor, qui est enfin, ultime. On n'en est pas encore là. Il y a des modes HDMI aussi. On peut mettre il y a des cartes HDMI pour consoliser à sa portable. Et puis, bah, justement, dans les écrans chinois, il y en a un avec ou sans la sortie HDMI qui permet de justement ajouter en plus de l'écran IPS une sortie. C'est une micro HDMI. Donc, faut juste faire un petit trou dans la coque pour laisser accès à la petite prise micro HDMI. Et puis, on peut sortir sur une télé en 480p, je crois,
Ok.
directement en HDMI. Donc, pour ceux qui veulent streamer, par exemple, de la Game Gear, chose que je prévois de faire prochainement, bah voilà, je pense que je vais me commander un de ces écrans avec sortie HDMI. Ça coûte 80 euros quand même, hein, la plaisanterie. Mais on a
Oui, mais
l'écran
après,
IPS
ouais,
et la
c'est. Ouais,
sortie HDMI, quoi. Voilà.
non, mais bien sûr, c'est
Donc
après,
ouais, on
c'est.
peut aller très loin, quoi. Donc
Ouais,
quand
c'est
vous
clair.
avez écran IPS, mode batterie, carte ligne, carte son neuve, longue
Mais
durée
même les
d'unité,
haut-parleurs, je crois,
SDI.
non? Ils changent pas les haut-parleurs par des plus puissants également avec la carte son, non?
On peut aussi, en changeant la coque, faire du double haut-parleur, parce que la Game Gear avait qu'un haut-parleur en
Ah, mais
bas à
c'est ça
gauche.
que j'ai vu. Ouais, c'est
Donc, il y a
ça.
des coques où, alors, ça fait pas du stéréo, hein, la console reste mono, mais ça duplique le mono, et du
Ouais.
coup, les deux oreilles entendent uniformément le son, alors qu'à l'origine, on n'entendait qu'un petit peu plus à gauche, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais, tout
Alors
à
que
fait.
quand on met une prise casque, quand on met un casque, là, on a bien du double mono, hein, c'est toujours pas du stéréo.
Oui. Tout à fait. Ok. Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dessus. Ça reste des très belles consoles. Hein. On a vu qu'il y avait pas mal de choses. Ils ont fait la part belle aux jeux Disney et ça, c'était cool aussi. Hein. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeux sortis aussi bien sur Game Gear que Mega Drive et Master System. Malheureusement, ça s'est perdu un petit peu avec la 3D. Bon, bah,
Voilà.
c'est comme ça fait partie de la vie. Et pareil pour Sega, je pense que ils continuent de, comme on disait, de perdurer. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans Mario et Sonic, c'est devenu aussi une marque à part entière. C'est ça qui est fou, quoi, de se dire que les deux concurrents de l'époque aujourd'hui font des jeux, les Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, tu peux prendre des personnages Sega dans plein de jeux
Exactement.
Nintendo. C'est assez fou, quoi. C'est assez
Ah oui,
fou.
parce que Sega est devenu, entre guillemets, hein, un simple éditeur.
Ouais, tout à fait. Ils sont retournés à la base. Donc,
Ouais, c'est ça.
voilà. Et encore une fois, bah, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir Stéphane, donc Michael Knight TV, sur Twitch, n'hésitez pas. Je vais mettre les liens également pour les gens qui sont en streaming audio. Comme ça, vous aurez nos liens. Et voilà, il y a les jours, tu les as dit, hein, je crois, où tu les as.
Lundi soir à 20h30, je fais du jeu rétro.
Ouais.
En plus, là, je suis sur un fil rouge JRPG. Donc, j'attaque et je finis les JRPG. Alors, pas en un seul live, hein, ça dure plusieurs lives. Les
Ouais.
JRPG, c'est bon. Là, en ce moment, je suis sur Secret of Mana. On a fait Chrono Trigger il n'y a pas longtemps. Et pas forcément, donc là, c'est Super NES, mais on a fait Tail Concerto sur PlayStation. Donc, voilà, j'essaye de faire des JRPG, mais qui restent plutôt contenus en termes de durée. Donc, forcément, ça va plutôt être du jeu 16 bits. Parce qu'ils étaient un petit peu plus petits à l'époque. Ce que j'ai regardé, il y a des jeux, des RPG très sympas sur PS2, mais c'est des jeux, il faut 40 à 60 heures de jeu. Non, non, en stream, ça va me prendre l'année. En jouant une fois par semaine, c'est pas la peine. Mais voilà, donc JRPG, 16 bits, éventuellement PlayStation, parce qu'il y en a des pas trop longs. Et puis bah, tous les jeudis soirs, 20h30 aussi, c'est réparation, modding de console.
Ok,
Voilà.
bon bah
Là, bah,
top.
demain, on fait de la Game & Watch demain.
Oh, trop bien. Les anciennes Game & Watch, ouais.
Ouais, une Game & Watch, c'est une Game & Watch Mickey et Donald.
Ok, eh bah tu vois, on est dans le thème en plus.
Ah ouais, on est complètement dans le thème, mais je joue la sorte. Écoutez, incroyable, elle m'a été confiée par Cash Converter. Elle est en boîte, elle est
Oh, trop
magnifique.
bien.
La boîte
Elle
est
est super
impeccable.
propre, hein.
La console est super propre. Par contre, elle a, bah, comme avec les années, là, un souci, c'est que les écrans LCD, en fait, il y avait des filtres polarisants dedans. Et c'est les filtres polarisants qui sont morts. Et du coup,
Ah,
il faut
ok.
changer les filtres polarisants. Donc, j'ai commandé des plaques. Et
Ok.
voilà. Elle est magnifique. Elle est en super état.
Ouais, c'est
Franchement,
clair. Ça, c'est
c'est pépite.
du beau matériel, hein.
Ça vaut une fortune. Hein.
Ouais.
En bon état, ça vaut une véritable fortune. Donc, voilà. C'est console que je répare gratuitement. Toutes les réparations que je fais sont à titre gracieux. Il n'y a que les composants que je change, que je demande de financer par les propriétaires des consoles. Donc
Ouais.
là, bah, c'est Cash qui a payé les filtres polarisants, mais je lui fais la réparation gratuitement. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, je peux réparer, modder vos consoles gratuitement. Moi, ça me fait du contenu pour les streams, et puis vous, ça vous fait une console réparée ou modée. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Je vois Bidibule qui dit qui aurait presque envie de prendre une Game Gear modée. Bah voilà, n'hésite pas à contacter Michael Knight TV et tu pourras.
Lundi, je peux le faire. Pour l'instant, j'en ai trois en stock avec écran LCD moderne, donc des RetroKai. Je peux faire le mode batterie, j'en ai déjà fait, ça peut se faire.
Yes. Trackpi qui dit, il y avait, ouais, il y a eu des Zelda, il y a eu des Mario, il y a eu des Donkey Kong en Game & Watch.
Oui.
Il y a eu des, je sais, il y a eu plein de Game & Watch différentes. Donc,
Il y a du plein, ouais. Il y a eu pas mal de Disney, ouais, en Game & Watch, ouais.
ouais, donc.
Il y a eu Popeye, il y a eu Snoopy, il y a eu ouais, il y a plein de trucs.
Ouais, clairement. Clairement, clairement. Bon, en tout cas, merci. C'était cool.
Avec grand plaisir.
Ça passe vite. Ça passe
Toi,
vite.
ton actu
Mon actu maintenant, donc stream du lundi au jeudi à 17h et les dimanches à 20h avec chaque fois un thème nouveau. Le lundi, on est plutôt sur du rétro. Donc rétro gaming et ensuite React d'émission rétro. Le mardi, des jeux de gestion. Les mercredis, bah, comme ici, des interviews, des podcasts, avec un petit peu de jeu de gestion également. Et les jeudis, maintenant, je vais entamer du scam betting, donc pour lutter un petit peu contre les arnaqueurs.
Donc, t'attaques demain?
Pardon?
T'attaques demain, ça?
Ouais, demain. Demain. Je vous expliquerai un petit peu le personnage que j'ai mis en scène, etc. Donc, et comment on peut aider un petit peu dans tout ça. Et les dimanches, spécial automobile, puisqu'on est simulation automobile et React en ce moment de Pimp My Ride, qui est une vieille émission de MTV de tuning. Donc voilà, ouais, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour
Qu'est-ce
tous les
que j'ai
goûts.
pu regarder Pimp My Ride? Ah,
Ouais,
sympa.
c'est trop marrant. Trop marrant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao, ciao.